VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 5 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Après deux fusillades meurtrières ce week-end aux États-Unis, le président Donald Trump assure que la haine n'a pas sa place aux États-Unis.
Hommage hier à Mamoudou Barry, le chercheur guinéen victime il y a deux semaines d'une agression raciste à Rouen, en France.
Au Soudan, le pouvoir civil sera formé le 18 août après des mois de contestation.
À Hong Kong, de nouvelles opérations des manifestants pro-démocratie créent le chaos dans les transports.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Cérémonie d'hommage hier à l'université Sanfonia de Conakry à l'enseignant guinéen victime de deux semaines d'une agression raciste à Rouen dans le nord-ouest de la France. Son corps a été rapatrié samedi soir à Conakry à bord d'un vol régulier parti de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le cercueil de Mamoudou Barry, enveloppé d'un drapeau rouge, jaune et vert aux couleurs de la Guinée, était porté par ses camarades de promotion. Des étudiants étaient vêtus de t-shirts à l'effigie du défunt, avec des inscriptions réclamant « Justice pour Dr Mamoudou Barry ». Plusieurs membres du gouvernement, le président de la Cour constitutionnelle, Mamdouba Bangoura, et des universitaires étaient présents aux côtés de parents et proches du défunt, dont son épouse. Après la cérémonie d'hommage, le cortège funéraire devait quitter Conakry dimanche soir, pour Mamou à 300 km de la capitale où est prévue la prière mortuaire aujourd'hui suivie de l'inhumation à Bolaro, village natal du défunt à une trentaine de kilomètres plus loin. Le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, a assuré que son gouvernement suit de très près l'évolution de l'enquête pour élucider le mobile de ce crime odieux et que justice sera rendue. À la suite de l'agression contre Mamoudou Barry, un homme a été interpellé et hospitalisé en raison de problèmes psychiatriques. Le représentant de l'ambassade de France a présenté une lettre de condoléances du président français Emmanuel Macron à son homologue guinéen Alpha Condé et au peuple de Guinée.
Au Nigeria, arrestation d'Omoyele Sowore, ex-candidat à la présidentielle de février et directeur de publication d'un site d'information virulent contre le pouvoir. On lui reproche d'avoir appelé à mener la révolution au Nigeria pour avoir écrit dans un tweet vendredi qu'il y avait besoin d'une révolution pour les oppressés qui veulent la liberté et ne plus être sujets à l'oppresseur. Il avait appelé à une marche ce 5 août à Abuja. Son arrestation a été confirmée dimanche par les services de sécurité 24 heures après son arrestation.
Au Soudan, le pouvoir civil sera formé le 18 août après des mois de contestation. Il s'agit d'une étape cruciale dans ce pays gouverné pendant 30 ans par un régime autoritaire. Le point avec Eric Manirakiza.
Ce nouveau conseil souverain est signe des bouleversements politiques profonds et sera mis en place au lendemain du début du procès pour corruption du président Omar El-Béchir, destitué et arrêté par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue. Hier, les généraux au pouvoir depuis cette destitution et les chefs de la contestation ont paraphé à Khartoum une déclaration constitutionnelle. Avec une déclaration politique conclue et signée auparavant, les deux documents formaient l'accord global sur un pouvoir civil qui lui sera formellement signé le 17 août. Manzer Abou al-Mali, l'un des meneurs de la contestation, a déclaré à marge de la cérémonie que les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août. « Nous avons tourné une page de l'histoire du Soudan en paraphant cet accord », a déclaré Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir. L'accord global soudanais a été obtenu après de longues et difficiles négociations entre les deux parties. Maintenant, nous pouvons dire aux martyrs que leur sang n'a pas été versé pour rien, s'est réjoui Omar Hussein, un manifestant en brandissant le drapeau national. Plus de 250 personnes sont mortes lors de la répression des manifestations. L'objectif de la transition est de parvenir à une paix permanente et globale avec les groupes armés, tout en mettant fin à la marginalisation d'une partie de la population, a souligné le médiateur éthiopien Mahmoud Drir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Américains étaient partagés hier entre l'émotion et la colère après deux fusillades qui ont fait 29 morts pendant le week-end au Texas et dans l'Ohio. Ces tueries ont ravivé les débats sur les armes à feu et ce que les critiques du président Donald Trump appellent sa rhétorique incendiaire. Pour ce dernier, je cite, « Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays ». M. Trump a parlé d'un problème de santé mentale et promis de faire une plus longue déclaration ce lundi matin. Le point avec Eric Maniraktiza.
Les deux drames ont provoqué une onde de choc dans le pays. 20 personnes ont été tuées samedi matin à El Paso, ville à majorité hispanique, et moins de 13 heures plus tard, 9 autres dans un quartier animé de Dayton, dans l'Ohio, au nord-est. Les autorités locales ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort contre le tireur du Texas, un homme blanc âgé de 21 ans, dont la police soupçonne une motivation raciste. Et l'affaire est traitée comme un cas de terrorisme intérieur, a annoncé la justice fédérale. En hommage aux victimes des deux massacres, le président Donald Trump a ordonné la mise en berne du drapeau des États-Unis à la Maison-Blanche et sur tous les bâtiments et terrains publics pendant 4 jours et a condamné ces actes haineux et lâches. Il est grand temps d'agir et de mettre un terme à cette épidémie de violence liée aux armes, a tweeté le favori de la course à la primaire démocrate, Joe Biden. Mais les républicains ont préféré une nouvelle fois mettre l'accent sur le phénomène de santé mentale des tireurs. Même pour certains républicains, cette explication ne suffit plus. La lutte contre le terrorisme est déjà une priorité. Je pense qu'elle devrait inclure de s'opposer avec fermeté au terrorisme blanc, a tweeté George P. Bush, le neveu de l'ancien président George Walker Bush, élu au Texas. C'est une menace réelle et actuelle, a-t-il poursuivi. La suprématie blanche, comme toute autre forme de terrorisme, est un fléau qui doit être détruit, a tweeté la propre fille du président Ivanka Trump.
Le chaos s'est abattu lundi matin sur le métro de Hong Kong et sur les vols internationaux en raison de nouveaux blocages de rames et d'une grève générale lancée par les manifestants pro-démocratie pour accroître la pression sur les autorités pro-Pékin. Des militants sont descendus dans des stations de métro à l'heure de pointe et ont maintenu délibérément les portes de wagons ouvertes pour empêcher les rames de partir, provoquant de longues files d'attente et causant parfois des accrochages entre des usagers en colère et des manifestants. Par ailleurs, plus de 100 vols ont été supprimés à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés du monde. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a accusé les manifestants de tenter de détruire Hong Kong.
L'Iran a saisi un pétrolier étranger dans le Golfe. C'est le troisième bateau arraisonné par la République islamique. En moins d'un mois, dans cette région stratégique au cœur des tensions entre Téhéran et Washington. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Les forces navales des gardiens de la Révolution ont arraisonné le navire Citerne, dont la nationalité n'a pas été précisée dans l'immédiat. 7 étrangers membres de l'équipage ont été arrêtés lors de l'opération survenue mercredi, a indiqué l'agence de presse Fars. Le navire transportait 700 000 litres de carburant de contrebande autour de l'île de Farsi dans le nord du Golfe et se dirigeait vers des pays arabes de la région selon les gardiens de la Révolution. Il a été transféré vers le port de Bushehr dans le sud de l'Iran et sa cargaison de carburant de contrebande remise aux autorités en coordination avec la justice iranienne. Il s'agit du troisième navire saisi par l'Iran depuis le 14 juillet dans le Golfe par où le tiers du pétrole acheminé par voie maritime transite selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. La nouvelle saisie risque d'exacerber davantage les tensions qui n'ont cessé de monter depuis le retrait américain en mai 2018 de l'accord nucléaire suivi du rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran qui font perdre à ce pays la quasi-totalité de ses acheteurs de pétrole. Le même jour, d'autres responsables iraniens ont dit que les États-Unis avaient imposé des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, après, selon eux, le refus de ce dernier d'une invitation à rencontrer M. Trump à la Maison-Blanche.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute éco, Nanit Talani.
Les prix du thé au Kenya ont chuté à leur plus bas niveau depuis au moins 5 ans en raison de l'offre excédentaire et de la faiblesse de la demande sur les principaux marchés d'exportation selon l'Association Est-Africaine du Commerce du Thé. Le prix moyen du thé kenyan aux enchères hebdomadaires dans la ville portuaire de Mombasa est tombé à 1,80$ par kilo alors qu'il était de 2,58$ l'année dernière. Le Kenya est le premier exportateur de thé noir au monde. Le gouvernement zambien reporte l'adoption d'une nouvelle taxe sur les ventes à janvier 2020 afin de permettre d'affiner la loi. La Zambie, deuxième producteur de cuivre d'Afrique, prévoit de remplacer l'actuelle taxe sur la valeur ajoutée par une taxe de vente non remboursable, mais cette décision a suscité une opposition de la part des entreprises. La taxe généralisée de 9% sur les ventes de biens et services, qui devait initialement être introduite en avril, était destinée à aider à rééquilibrer l'économie du pays très endettés. Terminons cette minute éco avec MTN Nigeria qui a demandé à un tribunal fiscal de décider s'il devait payer l'impôt sur les sociétés d'une amende de 1,1 milliard de naira. L'entreprise avait été condamnée à une amende de 1 400 milliards de naira pour avoir omis de désactiver plus de 5 millions de cartes SIM non enregistrées. MTN demande que l'amende soit traitée comme une partie des coûts d'exploitation, ce que refuse l'autorité fiscale nigériane. Le Nigeria est le plus gros marché de MTN avec 58 millions d'utilisateurs en 2018.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le premier tour, retour des éliminatoires du CHAN 2020. Le Togo élimine le Bénin.
C'était l'affiche de la zone Ouest B. Les épéviers sont venus à bout des écureuils 1-0 grâce à un but inscrit par Tchakei Marouf à la 72e minute de jeu. Un succès qui récompense le travail des Togolais. Leur entraîneur Jean-Paul Abalo s'en réjouit.
Je suis très content pour les joueurs. Il faut les féliciter parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Ils ont compris qu'ils ont un défi à relever, pas seulement contre leur adversaire, même avec ceux qui les critiquent. Ben, Dieu merci, on a une victoire à bout. On a vu l'adversaire jouer, je crois qu'ils ont posé des problèmes surtout au milieu de terrain avec un milieu qui décrochait. On a réglé le problème. C'est là que je suis très satisfait parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude sur le plan tactique de travailler. Donc, pour comprendre, pour assimiler sur un match, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ils ont joué avec leur cœur. Je remercie vraiment Claude Leroy pour cette victoire parce que grâce à lui, j'ai fait 2 semaines de stage avec les joueurs. Sinon, ce serait 3 jours de stage et je ne pense pas que c'est possible de faire déjà un match nul au Bénin.
Prochain adversaire pour le Togo, ce sera le Nigeria fin septembre.
Élisée, pas de miracle pour le Tchad qui faisait son retour sur la scène continentale.
Après leur suspension pour la CAN 2019, les Sao n'ont pas brillé lors de ce premier tour des éliminatoires du Tchad. Défaite 2-1 par la Guinée équatoriale qui va défier le Congo-Brazzaville au prochain tour. Ça passe aussi pour l'Éthiopie face à Djibouti. La Tanzanie qui a écarté le Kenya au tir au but. Madagascar qui a obtenu sa qualification au Mozambique. En revanche, les Comores ont été sortis par la Namibie tandis que l'île Maurice n'a pas fait illusion face au Zimbabwe avec un nouveau revers, tout comme l'Afrique du Sud humiliée 3-0 à domicile par le Lesotho.
Le reste des résultats avec le Sénégal qui passe de justesse au second tour.
Défait à l'aller 1-0 par le Libéria, les Lions de la Tilanga ont renversé 3-0 au retour. Absent des 3 précédents CHAN, le Sénégal affrontera au second tour la Guinée. Dans cette zone Ouest A, la Mauritanie est venue à bout du Cap-Vert 2-1 après le nul 0-0 du match aller. Dans 2 mois, les Morabitounes affronteront le Mali tombeur de la Guinée-Bissau. Au centre-est, l'Ouganda a disposé de la Somalie et croisera la route du Burundi au deuxième tour. Et puis dans la zone sud, la Zambie vainqueur du Botswana et l'Eswatini qui a réussi l'exploit en sortant l'Angola au tir au but se défieront au troisième et dernier tour.
Cyclisme au tour international de la République démocratique du Congo, le Rwandais Jean-Robert Roubaix-Roy garde le maillot jaune.
Oui, et c'est à l'issue de la deuxième étape remportée hier par le Français Gabriel Roger Anthony. Derrière lui se placent 2 Africains, notamment l'Angola Mario Bruno Lemos et le Burkinabé Mathias Sogo qui se sont détachés du peloton qui a connu plusieurs blessés à son arrivée. Précision avec Genovic Mboa du Top Congo FM, notre radio partenaire.
Après 220 km de course, pas de changement au classement général. Le Rwandais Jean-Robert Roubaix-Roy est toujours en jaune au terme de la deuxième étape comprise entre Mbanzangungu et Kasangulu. Une étape remportée ce dimanche par Gabriel Roger Anthony après un sprint final de 2h29 minutes, soit une moyenne de 38,2 km par heure. Mais à l'arrivée du peloton au cours de cette étape, près de 20 cyclistes ont chuté après avoir heurté un dos d'âne, d'où la colère du directeur du Tour, Francis Ducret.
On dit une chose, mais chacun fait à sa façon. Et je dis que là, il y a une erreur monumentale. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Ça n'existe pas de faire une arrivée en descente dans n'importe quelle course au monde.
À noter que la caravane quitte Kinshasa ce lundi matin pour le Grand Katanga où aura lieu la 3e étape du Tour. De Kinshasa, Genovic Mboa Mbaya de Top Congo FM pour VOA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après les mutineries dans des prisons de Yaoundé et de Boya, le système pénal camerounais continue d'être sous le feu des critiques. Et pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement envisage des réformes dans le code de procédure pénale. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les propositions sur la réduction des lenteurs judiciaires sont les plus attendues par le ministre de la Justice. Elles sont d'après lui d'extrême urgence, comme mentionné dans sa correspondance adressée au chef de cour d'appel en juillet dernier. Jean-Claude Fognon, secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center, un organisme de défense des droits de l'homme et d'assistance judiciaire, pense que l'initiative du ministre survient un peu tardivement.
Le ministre est au courant tous les jours de tous les blocages. Chaque fois que nous le saisissons pour des cas pratiques, le ministre ne se prononce pas. Il y a la réunion des présidents des cours chaque année. Au cours de ces réunions, toutes les difficultés que les magistrats rencontrent sur le terrain sont exposées au ministre. Donc il est suffisamment imprégné de ce qui se passe dans toutes les unités, que ce soit même dans les prisons.
C'est justement dans les prisons de Yaoundé, dans le centre, Boya dans le sud-ouest, qu'une colère est montée le mois dernier et a engendré deux mutineries. Les prisonniers ont protesté contre les lenteurs judiciaires et la surpopulation carcérale. Le cabinet Future Afrique a publié le mois dernier une étude nationale sur la justice pénale au Cameroun, sous la coordination du docteur Hilaire Kamga.
Il y a les lenteurs judiciaires et la surpopulation carcérale au Cameroun parce qu'il y a un déficit d'infrastructures. La charge de travail qui est donnée aux magistrats dans les différents tribunaux de première et de grande instance ne permet pas qu'ils résolvent avec la célérité suffisante les centaines de dossiers qui leur sont mis à disposition. Le deuxième problème est que la présomption d'innocence a cédé la place à la présomption de culpabilité au Cameroun.
Le code de procédure pénale promulgué en juillet 2005 a par exemple fixé les délais de la garde à vue à 48 heures, renouvelables une seule fois. Un ancien détenu, interpellé à Douala au cours d'une marche politique puis écroué à la prison centrale à Yaoundé, témoigne avoir vécu le contraire lors de sa garde à vue.
On a passé presque deux semaines au GESO, qui est un groupement spécial police, sans que l'un de nous puisse entrer en contact avec sa famille.
À cause de la non-application du code de procédure pénale, le nombre de détenus en attente de jugement est croissant dans les prisons du Cameroun, selon Jean-Claude Fognon de l'ONG Mandela Center.
Parfois, une affaire peut durer 4 ans, 5 ans au niveau d'une cour d'appel, alors qu'en principe, ils avaient juste 6 mois renouvelables, une seule pour ces cas de délit.
Vendredi dernier, le ministre de la Communication a annoncé la volonté du gouvernement d'accélérer les procédures judiciaires. René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, au cours d'une déclaration à la presse.
Le président de la République a prescrit au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'accélérer les procédures judiciaires en cours, de procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires dont la surpopulation est avérée.
Selon le dernier rapport de la Commission nationale anticorruption, la justice est le troisième service le plus miné par la corruption au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Burkina Faso vit une crise humanitaire, l'une des plus graves de son histoire. À cause de l'insécurité, le terrorisme principalement dans le nord, le Sahel et l'est, des populations sont obligées de fuir leur localité. Le nombre de ces déplacés s'accroît régulièrement et leur prise en charge devient difficile. Des organisations de la société civile ont lancé la semaine dernière une campagne surdénommée « Faisons un geste pour venir en aide aux déplacés ». Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Depuis la tuerie des Yirgu dans le centre-nord le jour de l'an, 62 morts selon le gouvernement et au moins 210 selon la société civile, le nombre de déplacés internes ne fait que grimper. De 82 000 en janvier, ce nombre est passé à 192 000 en juin, selon le CONASU, Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. À ce jour, ce nombre est en forte croissance. On compte 237 769 déplacés internes enregistrés à la date du 31 juillet, selon OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Des acteurs de la société civile veulent venir en aide à ces personnes. Il y a urgence.
L'urgence, c'est que nous sommes à près de 250 000 Burkinabés forcés de déplacer de chez eux.
Luc Damiba, président de l'association SEMFILM, l'une des associations porteuses du projet.
C'est des agriculteurs, des éleveurs qui ont quitté leur domicile, leur village en pleine saison pluvieuse. Donc l'urgence, c'est une question de santé. L'urgence, c'est une question d'abri pour se protéger de la pluie, d'intempéries, du soleil. L'urgence, c'est d'avoir de l'eau juste lavée, des sanitaires pour faire ses besoins. L'urgence, c'est que les femmes puissent accoucher dans les bonnes conditions sanitaires, se faire le suivi des malades, des vieilles personnes qui sont déplacées, le suivi moral, parce que des gens qui ont vu des morts, le suivi psychologique, tout ça, ça fait des urgences.
Tout le monde peut adhérer à la campagne. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo.
Que tu es opérateur économique, tu as les moyens, que tu es simple citoyen lambda, une entreprise, et même l'État, parce qu'on souhaite aussi fouetter un peu l'orgueil de l'État pour que l'État fasse un peu plus, assure un peu plus la sécurité de ses populations, apporte un peu plus de logistique. Mais on s'est dit, on peut aussi lancer cet élan de solidarité avec toute la population.
Et ce collectif d'associations et d'organisations de la société civile veut aussi impliquer le gouvernement dans cette action humanitaire.
Nous avons interpellé un certain nombre de ministères sur notamment la coordination de l'action humanitaire qui se fait sur le terrain.
Lydia Zanga, secrétaire exécutive de la CODEL, convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections.
La prise en charge sanitaire des déplacés, la prise en charge des personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants, les femmes enceinte aussi. Aussi, nous avons interpellé le premier ministère afin de mieux coordonner l'action du gouvernement en la matière.
La campagne Faisons un geste va durer 3 mois et l'aide, que ce soit des Burkinabés de l'intérieur ou de la diaspora, est attendue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, les autorités et le PNUD procèdent à la réhabilitation des pistes agricoles dans le Poule pour occuper les ex-combattants qui attendent leur réinsertion. Dans la localité de Lulombo, plus au sud, les agricultrices et certains jeunes saluent cette initiative. Reportage de notre correspondante Arsène Séverin.
La réhabilitation de la petite piste agricole de 7 km entre le carrefour de Lombolo et la gare de Lulombo constitue une étape importante dans le relèvement des populations du Poule. Les agricultrices voient là une facilité d'évacuation des produits agricoles.
Notre piste de Lulombo est détruite depuis des années. Il n'y avait plus possibilité de se rendre à la gare, de venir ici sur la voie bitumée. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à travailler à main nue. Nous cultivons beaucoup de produits ici, le manioc, le taro, la tomate, la patate, le foufou.
Mayaka, mankaba, mataro, bambala sucre, bangoufou, foufou, nkrasa.
Parmi ceux qui travaillent dans ce cantonnage villageois, les ex-combattants ninja constituent 60% des effectifs. Une occupation pécuniaire en attendant leur réinsertion.
Il y a un temps pour tout. La guerre est passée, mais maintenant, seul le travail. Je peux vous dire, depuis la sortie de la guerre, on n'assiste personne. Les jeunes qui sont sortis ne sont même pas assistés. Vraiment, c'est grave ça.
Le Poule demeure un département sinistré avec une jeunesse sans espoir. Le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Éloge Landry Kolela, en langue locale, assure cependant la population d'un avenir meilleur.
Ce qui est passé est passé. Regardons devant nous. Nous, les autorités, nous nous battons pour relever le département. Mais avant tout, nous devons être unis dans le Poule.
Le PNUD est l'une des agences qui accompagne le Congo dans le retour de la paix dans le Poule. Son représentant Maël Diop, qui a fait le déplacement de Lombolo, appelle les ex-combattants à s'approprier le projet.
Bien que cette initiative ne soit une activité d'aider en tant que telle, elle permet cependant de démarrer les activités de la réinsertion communautaire à travers l'ouverture de 3 pistes rurales. L'engagement des ex-combattants auprès des communautés dans ces activités participera à coup sûr de leur volonté à contribuer aux efforts de consolidation de la paix.
Puis la signature en décembre 2018 de l'accord de paix entre les autorités et les miliciens ninjas du pasteur Ntoumi, plusieurs actions permettent le retour à la normalisation dans le Poule. De retour de Lombolo dans le Poule, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le paludisme est une maladie endémique au Togo comme dans la plupart des autres pays africains. À côté des initiatives prises par les autorités pour mieux lutter contre cette maladie, de jeunes entrepreneurs togolais développent des produits plutôt naturels, aussi bien pour la prévention que pour des traitements curatifs. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Au Togo, le paludisme est la première cause de mortalité infantile, première cause de consultation médicale et première cause d'absentéisme scolaire et professionnel. D'un point de vue économique, cette maladie est responsable d'une perte supérieure à 1% du PIB du Togo. Pour mieux lutter contre le paludisme, l'accent est mis sur la prévention, mais aussi sur une prise en charge rapide et efficace du malade. Ces deux paramètres sont pris en compte par la tisane Artemisia, nous dit Jérôme Maussi, distributeur de la tisane.
La tisane Artemisia, en fait, ça traite et prévient le paludisme. À titre préventif, vous prenez une tasse dans la journée, bien ça va. Mais si vous êtes déjà atteint du paludisme, le mieux c'est que vous prenez ça trois fois dans la journée.
Selom Atou, responsable d'une unité de production de cette tisane, donne des précisions sur l'Artemisia.
L'Artemisia, c'est le principal actif qui est soustrait généralement pour fabriquer des produits anti-palu. C'est l'Artemisiline qui est dans l'Artemisia qui est soustrait pour fabriquer les autres produits. Alors que l'expérience a montré que la plante complète est plus efficace que l'actif lui-même.
Depuis sa mise sur le marché, la tisane Artemisia a des adeptes qui ne jurent que par elle pour être à l'abri du paludisme. C'est le cas de Emmanuel Amessina.
Franchement, avant, j'avais des doutes aussi. J'ai utilisé ça quand j'étais un peu malade. Et quand j'ai commencé à boire le médicament, j'ai vu que la fièvre, la douleur que j'avais, ça a commencé à réduire. Et j'ai suivi toutes les procédures et après, une semaine, deux semaines, j'étais en bonne santé, quoi. J'ai continué à utiliser ça et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas aucune crise de palu encore. Donc, je peux dire que oui, moi, je suis une witness pour cet médicament.
L'une des mesures préventives homologuées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Une pratique qui connaît des limites que propose de repousser la pommade Solim. Eya Banayasikpesi, directeur général de Tradi Natural Africa.
C'est lorsqu'on est dans la chambre qu'on peut se protéger contre les moustiques avec notre moustiquaire. Dès 8 heures, il y a déjà les moustiques qui dérangent. Lorsque j'étais enfant, nos vieilles utilisaient une plante naturelle et ça chassait les moustiques. Et je me suis dit, mais et si je prends cette plante, je ne peux pas transformer la plante-là pour faire en une pommade qu'on peut passer sur le corps et ça éloigne les moustiques. Avec 100 francs, vous avez la pommade. C'est à la portée de tout le monde.
Depuis le 6 mars dernier, le diagnostic du paludisme par le test de diagnostic rapide et le traitement des cas graves par l'artésunate et l'artémétère injectable sont désormais gratuits dans les centres de santé publique sur toute l'étendue du territoire togolais. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.